Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malt, la bière du 12e joueur.
Bon, Nilton.
Yep.
Il y a un nouveau concept qui existe maintenant dans le foot.
Mm-hmm, je t'écoute.
Eh ben, il y avait le concept du match en main.
It's dead.
Il y avait le concept des matchs à 3 points, normal. Les matchs à 6 points au mois de mai. Les matchs à 9 points au mois de juillet. Mais là, on a le concept des matchs qu'on peut se permettre de perdre. Avec 3 matchs qui restent à la saison. Nouveau concept. L'Impact pouvait se permettre de perdre contre DC United. Donc ce match-là n'existe plus. Épisode 340 quoi ? 344. Mm-hmm. Le match qui n'existe pas.
Combien qu'il nous reste d'épisodes ?
2,5. 1, 2, 3.
Peu importe c'est où. Peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact.
Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Cannes Football Club édition Couscous Péripéri. Se fait avec vous en ce dimanche gris. Dimanche gris après match de l'Impact de Montréal face à DC United, la raclée à l'Audi Field. Nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2018. Se fait avec vous et comme d'habitude, le péripéri du couscous, monsieur Nilton George. Bonjour Nilton.
Ça va, Sofiane?
Ça va très bien, merci.
Je le sens dans ta voix, là. Il y a un petit quelque chose de nouveau.
Rien qu'à changer. Il y a rien qu'à changer. Qu'est-ce qui se passe, là? On parle de quoi? Ah, on parle de Coca-Tetetinemi, là?
Non. On va pas là. On va pouvoir en parler pendant des semaines et des semaines, là, bientôt.
Les Conan, Drouin, Coca-Tetetinemi. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Vous écoutez sur la plateforme Cannes Football Club Plus Podcast, la seule plateforme dédiée au soccer au Canada. Donc bienvenue. Si vous voulez nous suivre, évidemment, @ Sofiane Benzaza et @ Nilton George, Nilton TONJORGE. Et bien sûr, dans les réseaux sociaux, trouvez le Cannes Football Club avec ces mêmes mots-clés. Cannes Football Club pour sur les réseaux sociaux. Merci pour les Patreons qui nous supportent toujours sur notre page Patreon, patreon.com/CannesFootballClub. Et bien sûr, on ne peut pas remercier assez la Force du Malte qui supporte le CCPP sur le CANFC de façon assidue. Donc merci à Guy Lafrenière et tous ses amis Trois-Rivières à la Force du Malte. On a vu des belles photos, que ce soit la Force du Malte ou même les ambassadeurs de trop de poutine qui étaient au le festival de la poutine et de la bière, je pense. J'avais vu des photos sur Facebook. Donc merci à la Force du Malte et bonne continuation dans votre aventure de la bière artisanale, ou du moins de la bière de la microbrasserie.
Hey, on en profite-tu pour faire une petite salutation spéciale à Fred Lopo?
Ben oui, Fred Lopo! Hein?
Qui a décidé de comme Donadel, hein, à peu près en même temps que Donadel, il a décidé de se retirer, prendre une petite pause peut-être, pour un retour peut-être, on ne sait jamais. Donc, salutations.
Salutations,
Fred,
le pauvre.
Ouais, Fred, c'est le premier qui m'a invité dans un podcast,
Ben oui. Hein?
Quelle erreur.
depuis la scène médiatique du soccer, Québécois n'a jamais été la même. Ouais. On n'a pas les droits de faire jouer la chanson de Wiz Khalifa, See You Again. Uh-huh. Vous connaissez
mais là,
via Fast
perte,
and the Furious. Là, mais,
La plus grosse perte, c'est son jingle. Le meilleur du CANFC qui parle comme
Lopo
ça.
Lopo Avendano. J'ai même chanté ce jingle en voix. Je l'ai chanté, ce jingle, durant leur podcast. Ils ont bien ri, ils sont bien foutus de ma gueule, les deux jeunes milléniaux.
Those damn guys.
Donc à Lopo, bientôt, Fred. À bientôt, Fred. Puis n'oublie pas, support playlist pour Spotify, ajouter It's been a long day without you, my friend.
Bon, on revient.
On revient au foot. Donc voilà, l'Impact est perdu.
C'est le réalisme qu'on a eu en fin de semaine.
Donc. Ça fait 3 minutes 55 qu'on enregistre et on n'a pas encore dit le score. L'Impact a perdu 5-0 contre le fameux. Contre DC United tout court. Donc samedi soir au Outfield, la première visite de l'Impact dans la nouvelle arena du soccer, le théâtre des rêves de la capitale nord-américaine qui remplace le défunt RFK Stadium. Une ouais. belle place, un joli nom, Audi Field, c'est bien. Quand Audi te sponsorise, ça donne un peu de bling-bling. Donc l'Impact s'est fait détruire. Luciano Acosta, en termes de score, Luciano Acosta à la 17e, Wayne Rooney à la 48e, Paul Ariola à la 61e, le doublé d'Ariola à la 78e, et enfin Rooney avec un but à la 82e, courtoisie de The Rooney, The Premier League, Wayne.
Rooney
Voilà, donc René, je suis trop vieux, je suis pas assez bon, blablabla. J'avais tweeté, et Nilton aussi, attention, quand on parle de légende, attendez de les voir jouer 2-3 matchs avant de dire que la personne, le joueur est fini, quel que soit son salaire.
Sinon,
voilà, je pense qu'on a...
Petite question pour toi.
On avait dit ce qu'on avait à dire.
On va laisser tomber là, les trous de Poutine, là, puis les on s'en fout complètement dans ce match-là.
On peut juste remercier les gens. Merci d'évaluer sa poteau d'or trop Poutine général d'un fois.
Même les gens étaient un peu tannés.
On sait que c'était pas un bon match, mais merci encore à l'avance, puis on va réagir avec vous sur Twitter durant la semaine pour vos évaluations. Go Nilton, j'ai l'impression que tu veux me chauffer, tu veux me piquer, là.
Non, mais pas toi. Ça serait tellement le fun aujourd'hui, de pouvoir parler directement aux gens au téléphone. Ah, ça serait tellement.
Une ouverte. Bonjour, ici Jacques de Ville-la-Salle.
Moi, j'ai une question at large. Puis, si vous voulez me répondre pendant la semaine, go. Je vais essayer de vous répondre à mon tour. Pourquoi vous êtes si énervé avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé que vous n'étiez pas au courant dans les derniers mois? Je veux dire, on a toujours su que le match à DC, il y avait des très bonnes chances. On ne dira pas excellentes, mais de très bonnes chances qu'on le perde, ce match-là. Il fallait toujours considérer ce match-là comme une défaite. Finalement, ça en a été une. OK, c'est 5-0. 5-0, 1-0, on s'en fout. Ce fut une défaite comme prévu. Pourquoi tout d'un coup, quand je pose la question « playoffs, no playoffs », on passe du 80 ou 85% oui à 85% non. Il ne s'est rien passé de nouveau, gang. On savait qu'on allait perdre ce match-là. C'était oui, tout le monde disait que c'était le match de l'année, mais c'était le match de l'année pour DC. DC, eux, ils l'ont compris.
Ben oui.
Nous, on le savait que ce match-là, ces 3 points d'avance étaient virtuels et temporaires. Pourquoi on capote? On le savait qu'on n'avait pas... On n'a pas une très bonne équipe. On a, à la limite, une pas pire équipe pour se qualifier dans les playoffs.
Mais
comme on vous disait, puis on a arrêté notre conversation, Sofiane, avant d'enregistrer parce qu'on ne voulait pas brûler notre sujet... Nous, là, on passe pour des pessimistes, mais dans le fond, c'est parce qu'on n'a pas le même objectif peut-être que les autres analystes, observateurs ou fans. Moi, ce que je veux voir de cette équipe-là, c'est une bonne équipe qui peut faire du face-à-face avec les Red Bull, qui peut faire du beau jeu à DC. C'est pas ça qu'on a.
Non,
on a des éléments.
C'est vrai.
Et on ne vise pas Rémi Garde, là. On n'a pas les éléments sur le terrain pour faire ça. Quand on réussit, c'est parce que on est dans une réussite totale.
Et c'est vrai. Et pour appuyer ton point, par exemple, Orlando City et Atlanta sont arrivés sur le marché. C'est les deux équipes qui ont un peu chamboulé l'économie sportive de la MLS. On est d'accord, ces deux clubs-là, surtout Atlanta, mais Orlando a quand même investi beaucoup.
Ça fait en sorte que maintenant, on parle de MLS 3.0 et quand Zlatan et Rooney est arrivé, on a décrié cette méthode-là en disant que c'était la vieille façon.
Exactement. Alors que, en fait, la vieille façon peut être bonne si tu fais des bons choix. C'est pas compliqué. Alors que même si la MLS va chercher des villes comme Cincinnati, Miami maintenant, puis Nashville comme des franchises MLS, c'est pas nécessairement des marchés qui vont se dire on va ramener des grands joueurs. Mais encore une fois, on connaît pas le budget de ces équipes-là. Même si Cincinnati, on a l'impression que ça va être d'une équipe style Columbus, Sporting Kansas City, qui vont développer beaucoup. On en a cette impression-là, parce qu'ils sont encore en USL. Mais malgré cela, quand Atlanta a dépensé des millions et cherché des joueurs et des coachs d'épée, quelque chose que l'Impact a fait aussi, un coach d'épée ou un joueur désigné, est-ce que vous avez vu, par exemple, les Red Bulls paniquer? Et encore plus, New York City FC était venu bien avant, et eux aussi, ils ont marqué le coup économiquement, bien avant Atlanta et Orlando. Est-ce que New York City Red Bulls a changé son modèle?
Non.
Est-ce que Columbus a changé son modèle d'institution? Non. Les deux clubs, en plus, ils ont même renforcé leur façon de faire. Ils ont double down sur leur façon de faire, leur façon de jouer. Est-ce que le Toronto FC a changé? Non, le Toronto FC avait déjà fait ça, mais il le faisait très mal trop souvent. On se dit, on s'en foutait un peu d'eux, puis si ça marche, tant mieux. Ça marchait avec un triplé en 2017. Donc, est-ce que Kansas City a décidé, non, nous, on va dépenser beaucoup? Est-ce que Dallas, qui est maintenant toujours premier dans la conférence de l'Ouest, a décidé de changer son modèle puis payer des grands noms qui viennent à Dallas? Non, ces équipes-là n'ont jamais changé leur modèle de réussite parce qu'ils ont une façon de faire puis ils continuent avec. Alors, et le problème, pourquoi je dis ça, c'est pourquoi j'ai ce long monologue, Nilton, c'est pour dire surtout, l'impact, malheureusement, se voit on a l'impression que ce club-là, qui n'est pas encore une institution, réagit ou semble devoir réagir à ce qui se passe autour de lui. Et quand on dit, par exemple, quand on disait en pré-saison, toute la conférence de l'Est s'est quand même améliorée avec l'impact à stagner malgré le renouveau ou le recyclage, le reset, comme dirait Marc Bergevin. c'était un reset, Nilton. C'était un reset.
Ta deuxième allusion au hockey, t'es en train de battre des records.
Moi, je suis un Montréalais. Je suis multisport. Tu comprends, Nilton? C'était un reset. Mon anglais, mon français, pas bon.
Reviens avec moi.
Je reviens. Donc, c'est pas. Donc, l'impact, on dirait qu'il est en train de réagir. Et quand il réagit, et quand il fait des moves en ayant des joueurs suspects, ou on paye trop des joueurs, ou on garde des contrats du régime précédent, on se dit, Rémy Garde est menotté, etc. C'est pas de sa faute. C'est parfait. Mais ça change pas que si l'impact avait une façon de faire, c'est-à-dire, ça pourrait être, par exemple, l'académie, on y va à 100%. Dans le sens, on se dit, on essaie d'avoir 3 ou 4 académiciens pros dans l'autre 18. Ça peut être une façon de réfléchir, c'est pas nécessairement logique pour un club, disons que tu fais un choix. Tu vois, l'impact n'a pas ces concepts, ces philosophies, si vous voulez, ou ces méthodes. L'impact a une méthode de base. Je pense que ce nouveau staff va vraiment révolutionner comment l'impact fonctionne sportivement, j'espère. Qu'ils vont laisser ça comme héritage quand ils vont partir. Et l'impact est tout le temps en chamboulement. On a l'impression, il y a tout le temps un reset, on se dit, ok, on recommence à zéro. C'est pourquoi, Nilton et moi, on a des attentes, on s'attend que l'impact, comme il a été à un certain moment dans la A-League USL, parce que c'est un club qui dépensait beaucoup plus que les autres, il avait une certaine dominance, une domination durant la saison, j'oublie les playoffs, là, disons que durant la saison, tu as une certaine façon de jouer. J'avais l'impression que beaucoup de joueurs dans la USL et A-League voulaient jouer à Montréal. Donc, ça voulait dire que l'impact faisait quelque chose de bien à ce moment-là. Mais maintenant, dans les big leagues, sachant que la MLS est une ligue mineure, et c'est que l'impact, malheureusement, est toujours dans un état embryonnaire, comme un cocon qui n'accepte pas encore de devenir un papillon et vraiment s'épanouir et vraiment sortir de sa coquille et commencer vraiment à se comporter comme une institution, un club qui devient une institution. Parce que en ce moment, même en dehors du terrain, l'Impact a du mal à vendre des sièges alors que le Cincinnati, ils en vendent à gogo dans un stade de baseball, qui sont même pas en MLS. Atlanta, on dirait que c'est le Real Madrid tellement qu'ils ont des gens qui remplissent les stades. Donc, tous ces facteurs-là, ce sont pas dissociés. Quand on voit comme le club est, et ensuite le club a des problèmes en termes de contenu, on parle pas assez de nous, il a pas assez de sièges vendus, on est indifférent par rapport à nous, il fallait que Johnny Manziel vienne à Montréal pour qu'on oublie l'impact, alors que les Alouettes, c'est une équipe who gives a hoot. Je comprends que la culture foot américain est très importante à Montréal, au Québec, mais c'est pas normal. Donc, tous ces facteurs, Hamilton, je pense qu'on se dit, c'est ça l'histoire de l'impact. On l'a vu venir. On vous l'avait dit. Pas en mode, je l'ai dit, je veux t'apprendre des leçons, genre. On l'a dit parce que c'était important pour nous de partager ces opinions et ces impressions qu'on avait.
Non,
j'ai trop parlé.
Non, mais et là, présentement, on se retrouve comme on était il y a 2-3 semaines. On est à peu près dans la même situation.
Tout à fait.
On savait que le calendrier faisait en sorte qu'il y avait un net avantage sur DC et qu'il faut que DC se fasse accrocher. Les playoffs, même quand on avait virtuellement 5 points d'avance, c'était compliqué de les avoir. On se retrouve encore dans une course difficile à faire les séries, et même si on les fait, ces maudites séries-là. Faut pas que ça devienne une fixation. Le club, faut pas que ça soit un mode d'année en année pour faire les séries. Puis là, je veux revenir sur un truc que tu as dit tantôt sur le staff et Rémy Garde. Malheureusement, ils n'ont pas encore réussi, puis c'est un projet tellement à long terme qu'en une saison, c'est difficile. Ils n'ont pas réussi à établir une structure quelconque pour les années à venir à Montréal. Ça reste encore du patchage. des situations qui se présentent comme ça. Bakary Sagna, c'est une situation qui s'est présentée. Les trades avec Azira et Quincy, c'est encore... c'est que du très, très court terme. C'est pas une façon de faire à long terme. Si on est éliminé en série en première ronde ou si on ne les fait pas les séries, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Il faut quelque chose de beaucoup plus large. Il faut avoir une vision beaucoup plus large dans ce club-là. Il faut être capable de se structurer pour aller chercher les éléments manquants. Puis, samedi, qu'est-ce qui est différent samedi qu'on ne savait pas déjà en janvier? Il manque d'une finition à l'attaque. On n'a pas... Même quand on pensait peut-être que Matteo était capable de faire 10 buts, qu'on se disait, si c'est pas Matteo, c'est Jackson Hamel. Même quand on était dans cette vision-là positive de l'avenir,
oui.
On était tous les deux les seuls qui disaient, « Boys, il nous faut un attaquant. Ces gars-là, ça peut être juste des plans B. Il nous faut le plan A. Il nous faut des ailiers. Il faut des gars sur le banc qui compétitionnent directement ceux qui sont sur le terrain. Il ne faut pas se dire, ben pourquoi je vais aller chercher un ailier gauche, on a Nacho Piatti. Non! Il faut des gars qui sont capables de prendre n'importe quelle place.
Tout à fait. Il faut un troisième milieu de terrain, parce que je vous l'ai dit, Tider ne peut pas tout faire. Tider aura bon un match dans le même rôle, puis le match précédent dans le même rôle. Il va dire, mais ce gars-là, il s'est joué au foot ou pas?
Il faut réagir rapidement. Ben oui. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on se fait dire, je vais parler par là, quand on me dit tu réagis trop vite, ça fait juste un match, on voit rapidement, c'est un gars qui n'est pas capable de faire un truc technique ne sera pas capable de le faire dans 5 ans parce qu'il va avoir 25 ans. C'était clair et net qu'en janvier, Edwards et Vargas ne serviraient à rien à l'Impact de Montréal pour avancer de façon clair et net. Là. Oui, ils vont avoir des
dans ce contexte,
flashs.
Je suis d'accord. Il y a 2 ans, ces joueurs existaient, on se dit « Ah, c'est pas mal. C'est des projets. »
Je veux dire...
Mais le club a changé. La Ligue a changé aussi depuis 2015.
Je veux dire, c'est quoi la différence entre ces gars-là puis un Romero ou un Deli Luca? À la limite, Romero était plus utile et un Deli Luca était plus utile à l'époque à ce club-là.
De loin.
Là, on est pris. On est pris dans un match. C'est 2-0. Il faut absolument aller chercher de l'offensive.
Tout à fait.
Vers quoi il peut se tourner, Rémi Garde? Rien. Il n'y a absolument rien. On va pouvoir attaquer, disons, Camacho qui a eu un match terrible. Mais sincèrement, est-ce qu'il y aurait eu un entraîneur qui aurait été assez fou
tout à fait
pour prévoir à l'avance cette performance-là, pour dire Camacho, je le sens, là, ça fait plusieurs matchs où défensivement, c'est du 50-50, je vais mettre Raïtala à ta place. Impossible d'aller... C'est vraiment osé. Un coach qui fait ça puis qui réussit, donnez-lui le double du contrat. Cette équipe-là a été construite pour que ça soit comme ça toute la saison. Des résultats étonnants et des résultats décevants. Il n'y a rien de constant d'une semaine à l'autre.
Non, je te rejoins à 100%. Et puis, ce qu'il y avait de positif quand même durant la bonne séquence du club, la bonne séquence qui le club s'est retrouvé de 8e à 5e là, ou à 6e, donc tu sais, ils ont renforcé leur place, ils ne se sont jamais fait dépasser par DC United ou New England, c'est que, bon, il y avait des enchaînements de victoires intéressantes. Bon, on sait qu'Orlando, bon, un back-to-back, ça a aidé. La victoire contre Casey, c'était important. Colorado, c'était faible, mais ils ont gagné. T'sais, ils ont gagné des matchs qu'il fallait qu'ils gagnent. Avec les résultats qui ont marqué, comme le match nul à Portland, ça, c'était important. Je pense que le match nul à Portland a vraiment marqué l'esprit des joueurs. Genre, on peut faire quelque chose à l'extérieur. Ils avaient une certaine mentalité. Et c'est pourquoi moi-même, j'étais choqué un peu. Il y avait le 1 partout à Salt Lake. J'étais un peu choqué un peu par la victoire de l'Impact à Philly de 4-1. C'est le score m'a un peu choqué. Ça, mais c'était quand même tous les astres étaient alignés, dans le sens la contre-attaque marchait parfaitement. Piatti était en fuego, Silva était très calme et puis tout le monde jouait très bien. Donc, mais dans le cadre que Philly voulait être maître à bord et puis s'en fait avoir. C'est leur problème. Et justement, à travers tout ça, moi je me demande, je me dis, puis je l'ai déjà dit au moins 15 fois cette année, même si l'Impact gagne la Coupe MLS cette année, ça ne change rien à tout ce que j'ai dit et tout ce que je vais dire l'année prochaine. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux que l'Impact gagne la Coupe MLS. Cette année, je veux qu'il gagne. S'ils font les séries, allez-y, go all in. Il y a juste un but. Quand tu fais les séries, il y a juste un but. Il y a deux statuts. Statut 1, tu gagnes la Coupe MLS. Statut 2, tu ne gagnes pas la Coupe MLS. Il n'y a pas d'autre choix. Et puis surtout qu'on sait que les séries MLS, d'année en année, tu ne peux pas prédire la performance de ton équipe, sur qui tu vas tomber, quel est ton calendrier, est-ce que tu vas jouer le match couperet ou est-ce que, de barrage ou est-ce que tu vas jouer directement à la maison avec le bye week. Tout ça, tu ne peux pas le prédire nécessairement. Tu peux le contrôler en tant que tu peux, mais à deux matchs qui te restent, tu es premier et puis tu finis deuxième parce que voilà, tu as perdu le match de trop. Puis tu te retrouves à taper Columbus qui ont fait un premier match de barrage.
Mais le problème, c'est que ce club-là se met dans cet état d'esprit. Et on les entend dans les entrevues. Leur case à cocher, c'est faire les playoffs. Une fois que ça s'est fait, leur travail est fait, ils s'en foutent. Ça ne devrait pas être ça.
Oui, mais ils le savent. Du moment qu'ils ont mal commencé, ils savent que faire les playoffs, c'était la seule chose qu'ils avaient. Puis je pense que, encore une fois, je suis d'accord avec toi, Newton, le club est plus en mode faire les playoffs ou pas, pas nécessairement comment faire les playoffs. Parce que faire les playoffs, c'est le résultat du travail. Alors que l'Impact, ils pensent comme les playoffs, ils mettent un playoff comme prérequis pour arriver au ce qu'ils ont, alors qu'ils devraient avoir plutôt l'attitude de l'académie, de l'Impact de Montréal et les autres académies. T'arrives à la victoire c'est bien, mais c'est comment tu arrives et comment tu construis une structure pour y arriver. Ou tu plaques n'importe quel joueur. Regarde les Red Bulls, ils ont changé de coach en pleine saison. Mm-hmm. Non, Jesse Marsh n'est pas parti coacher le Real Madrid. Là. Il est assistant au Red Bull Leipzig. Il est parti comme assistant. Il n'est pas parti, je m'en vais coacher l'équipe nationale américaine. Il est parti comme assistant au Red Bull Leipzig. Un coach qui a marqué l'équipe assez rapidement, puis en pleine saison. En pleine saison, il est parti. Puis
mais la structure est claire et nette et installée. Là.
Obviously. Exactement, Lytton. C'est ça que je voulais dire ça. Elles sont du drama, mais bon, t'as coupé mon drama et t'as raison, je parle trop. Et c'est ça, Lytton. C'est juste ça. Maintenant, restons dans le court terme tout de suite. Question qui tue, Lytton. J'en ai parlé au préambule. On va en reparler maintenant. Est-ce que ce match est un match qui n'existe pas? Parce que c'est un match que l'Impact pouvait se permettre de perdre.
Mais dans la tête des gens, non. C'est ça qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne le plus. C'est la réaction. On s'en fout du score. Tu sais, oui, ça fait mal. Philadelphie a mangé une volée 4-1. Puis ça,
ils vont bien.
Ils ont redressé leur manche. Puis ils ont continué comme si rien n'était.
Tout à fait.
Mais cette défaite-là aurait dû être toujours présente dans l'inconscient du club et des partisans. C'était prévisible dans une certaine mesure. C'est pas comme si on avait perdu à la maison contre San Jose. T'sais. C'est pas ça, là. C'était un résultat qu'il fallait toujours envisager. Et moi, ce qui m'a étonné un peu dans ce match-là, et ça a été lors de l'entrevue à la fin de la première demi, quand Fanny dit à Nicolas Martineau, va falloir faire attention pour prendre un deuxième but, sinon c'est pas mal fini. Ça va être très, très compliqué. Dans la tête des joueurs, c'était déjà clair dans leur tête. Dans leur tête, c'est « OK, on est ici pour jouer un nul. Là, on ne sera jamais capable d'en mettre deux. C'était fini. » Déjà, les gars sont conscients de leur force. Ils savent que la seule façon de gagner, c'est d'être efficace défensivement. Puis, si on n'est pas capable de fermer le jeu, c'est fini. Les joueurs ont complètement relâché le jeu.
Mais ils n'ont pas relâché parce qu'ils ne sentaient pas bons, je pense. Ils ont tellement eu de chance de marquer au premier mi-temps que je pense qu'ils ont dit, c'est bon, René te marque le 2-0 juste en revenant du vestiaire pour la deuxième mi-temps. Puis, boum, tu dis, ça te coupe les jambes, c'est normal.
Ouais, ils ont 10 tirs bloqués, ils ont 10 tirs hors cadre, c'est le festival. Il y a eu des chances là, mais on va avoir un problème parce que là, il va tellement falloir trouver un avant-centre efficace parce que là, ça fait quelques matchs là qu'on voit Silva, on est capable là, de le.
Ouais, mais Newton là.
De le décrire.
Tu comptes déjà parler de mercato d'avant-centre, doucement. Wow. Attends.
Ça fait 12 mois là.
Je suis pas encore prêt. Newton, mon corps n'est pas prêt. Après la saga Jimmy Briand, je ne suis pas prêt à parler de mercato, de profil. On sait déjà, ils ont besoin d'un gars qui marque. C'est pas compliqué.
Non, mais il va falloir plus qu'un gars qui sait finir les jeux là. C'est terrible.
Newton, une étape à la fois. Une étape. Déjà avoir un attaquant. Avoir un attaquant qui a comme mec. Ok, je vais répéter. L'objectif numéro 1 de l'Impact. Mes attentes sont tellement basses pour ce club en termes de mercato d'attaquant que je suis obligé de dire ça.
Ouais, mais là, on dirait que même les partisans, les observateurs au grand complet sont Ils ont tellement été habitués. J'en ai parlé justement, là, name dropping, avec Stéphane Langdo. Il disait, oui. Quincy Américois, c'est bien. Hein? Ben non, c'est pas bien. Dans arrêtez, gang. Il était backup à San Jose.
Dans le contexte, c'est mieux, Nilton.
C'est mieux. Ça veut pas dire que c'est bien.
Encore ma métaphore pourrie que je répète et les gens vont dire, ah, Stéphane, c'est nul. Tu manges des craquelins. Tu manges des craquelins, ça vient en nature. Hein? T'en manges, t'en as marre, c'est maussade, il n'y a pas de goût. Un jour, on donne des craquelins avec du sel de mer. Tu dis, waouh, ce craquelin est incroyable.
Ouais, mais tu vas finir avec la cellulite, là. Donc, non, c'est pas bon.
Mais Nilton, c'est question de perspective, justement. Tu fais la même erreur que les fans font par rapport à la réactivité. Et c'est une question de perspective et de gérer les attentes, OK?
Non, parce que quand on dit c'est mieux...
Ben oui, c'est mieux Nilton. C'était tellement nul avant. C'était tellement nul avant Nilton.
Non, on continue à perdre. Ça change rien au match. Je veux dire, bravo, il tient le ballon.
OK, donc au fond...
On perd quand même parce qu'il ne la met pas de temps quand une occasion, là, OK, le match est fini. Il est déjà 3-0.
Donc en disant ça...
Il y a un 3 contre 1. L'avant-centre, tu as le ballon dans ses pieds. Il y a le but, là, il est complètement ouvert. Il ne touche pas le filet. Ça se peut pas. On peut pas être content d'un attaquant qui touche pas le filet parce que, oh, le gars, il court.
Nilton, l'erreur que tu fais, c'est que tu... Ce qui est une bonne chose, c'est une erreur dans le contexte, OK? L'erreur que tu fais, c'est que tu es en train de parler du rôle... Tu es en train de dire c'est quoi le rôle d'un bon attaquant dans un club, ce qu'il aurait dû faire.
Alors c'est une erreur.
C'est une erreur dans ce contexte-là. tu sais pourquoi dans ce contexte-là? Parce qu'on passe de Mancosu qui a rien foutu, que j'ai dit depuis 2 ans et demi, il est nul, à Jackson Hamel qui se blesse tout le temps et qui est clairement pas dans les petits papiers de Rémi Garde, tellement pas, tellement qu'il est supposé partir au RC Brest ou je sais pas quoi où, puis on a tout nié ça. Je pense que c'est une info de Nick Martino.
Ben, il va partir cette
semaine. Il va partir. Moi, j'ai dit qu'il fallait qu'il parte l'an dernier. Là. Go, go, go.
Comme, on avait pas dit la même chose pour Crépeau?
On a dit Crépeau, du moment qu'il a été prêté il y a 2 ans. Va faire de l'argent ailleurs. Mais, tu ne peux pas appliquer cette analyse juste là, mais un peu big picture, pour dire à l'attaquant d'en marquer, parce que l'impact n'aime pas ça. Et je voulais revenir à ce que je disais, l'impact a un rôle à faire. Trouver un attaquant qui a comme métier d'être buteur.
Je suis pas d'accord avec toi. C'est la faute du club. Puis, nous, on dit, après le mercato d'été, si on dit, ce club-là, ça va être tough à faire les playoffs, puis on se fait dire qu'on est pessimiste, non, c'est parce qu'on regarde l'effectif, puis on se dit, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but qui va rentrer.
J'étais d'accord avec toi en janvier, février, mars, avril, mai, mais après, c'est fini. Cambrian n'est pas arrivé. Cambrian, la signature de Briand à l'impact a avorté. C'est fini, j'en parle plus. J'ai plus d'attente, ils n'ont pas d'attaquant. Américois, c'était un cadeau du ciel. Les gars, ils sont capables de garder le ballon et être pivot. Mancosu, quelque chose de Mancosu n'a jamais pu faire cette année. Catastrophique.
Il y en a plein de gars les soirs de semaine qui sont capables de faire un pivot et de courir fort. Là.
Allez au Soccer 5, rue Fulham. Il y a des bons gars, des beaux terrains. Vous allez trouver des gars qui sont des bons pivots. Hein, et ils vont muscler leur jeu. Mais Nathan, sois honnête. Avec ta logique, et je suis d'accord avec toi, là, avec ta logique, tu vas te dire, en fait, on met Mancosu comme titulaire maintenant. Américois, ça sert à rien. Il faut arrêter. Américois, c'est mieux qu'une Mancosu. Le seul problème, c'est que ces deux attaquants n'ont pas comme métier d'être buteur. Ils ont un job d'attaquant, mais leur métier, c'est pas d'être buteur, malheureusement. Américois a beaucoup plus de talent et beaucoup plus athlétique.
Pour le faire. C'est, si on avait un milieu offensif qui a le flair pour mettre, si on avait un Silva qui est. Vrai finisher, Silva a besoin de 5 occasions pour en mettre une.
Moi, je pense que dans le contexte de la MLS, même son milieu offensif, Taylor Piatasira, Silva Piatti, c'est assez, c'est un attaquant,
c'est un bon attaquant.
Non, c'est assez pour être compétitif. C'est un bon attaquant, c'est assez.
Ouais. Si on a Divayo en face, là, c'est assez. 15-20 buts, ok, ouais.
C'est amplement assez. Mais je parle bien d'un attaquant qui a comme métier buteur, je parle pas d'un bûcheron, là, d'un boucher, mon frère. Je parle d'un gars qui sait. Vous avez remarqué, j'utilisais des métiers avec le mot B. C'était important, ça, comme note. Donc, prenez 2 secondes.
Il nous faut aide derrière.
Prenez 2 secondes pour réfléchir à mes métaphores, là. C'était bien fait. Mais, Nilton, ce qui est important, on le sait déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en termes d'attente, je suis d'accord que la réactivité volatile du hashtag MFC était assez étonnante. Mais c'est aussi... Après le 3-0, on s'est dit, waouh, il faut vraiment. En plus, on n'avait pas l'impression que DC allait arrêter. Alors, DC voulait mettre des buts. Je pense que c'est ça qui a déprimé.
Ah, il s'amusait, là.
Je pense que c'est ça qui a un peu, comment dire, qui a déprimé les supporters. Parce que, tu sais, ils ont, Wayne Rooney a continué de vouloir marquer jusqu'à la 82e, là. C'est fort, quand même. C'est fort. Puis, c'est quelque chose, c'est un statement que DC voulait dire à leurs supporters aussi à eux.
Mais moi, je suis content de voir ça. Essayons d'être neutre, là. Mais moi, je suis content de voir des Rooney puis des Zlatan réussir.
Ben oui. MLS. Ben oui. Mais moi, c'est surtout Rooney. Parce que moi, Zlatan, j'avais pas des doutes. Même s'il ressortait d'une saison, une saison blanche avec United en termes de blessures, c'est un phénomène physique. Donc je dis, s'il est physiquement correct, je sais que son talent va être là. Alors que Rooney me donnait l'impression tellement qu'il, s'il court pas, il sert à rien. Parce que c'est un joueur. Allô?
Oh oui, je t'entends.
Ouais, t'es là. S'il court pas, ça sert à rien. J'ai vraiment cette impression que se dit, ouais, les gens se sont dit, le gars, il peut plus courir, on le voit à Everton, il a du mal à suivre le rythme. Ouais, mais c'est le rythme de la Premier League, là. C'est pas le rythme de la MLS. Je dis pas que la MLS, c'est Bantam triple A.
Mais non, il y a une différence dans le rythme,
c'est ça. C'est quand on me dit, la MLS, c'est physique, l'APL, c'est du UFC, là. Il faut pas exagérer. Mais c'est juste par rapport à ça. Et puis, je suis content de voir Rooney. Et Rooney, j'adore ce joueur-là. Pour moi, c'est un des meilleurs attaquants de sa génération. Tu sais, dans sa génération, je sais pas moi, il était là, je sais pas, 2002, 2010, là. Pour moi, c'est un des meilleurs. C'est mon top attaquant.
Il s'est transformé parce qu'en début de carrière, c'était vraiment un avant-centre pur sur le physique, sur le flair. Puis tranquillement, il a su s'adapter. Il s'est adapté avec avec l'évolution de son physique. Il a su être plus posé, d'être plus réfléchi, de se donner au collectif. Puis,
Mais il y a deux choses.
Il est tombé dans une bonne équipe parce que l'affinité avec Acosta est hallucinante.
Acosta peut le remercier là, parce qu'il a sauvé la carrière d'Acosta et le choix de DC United de le ramener de Boca Juniors. C'est pas mal. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a deux choses que Rooney a tout le temps gardé. Son sens de finishing, il est encore là. Et ses centres. Les centres qu'il fait là, c'est incroyable. Honnêtement, c'est du haut niveau ce qu'il fait. Vraiment, tu vois comment il change de direction, il les joue comme numéro 10, il recule, il remonte, il distribue. Puis, il n'est pas le seul, là. Les autres aussi, honnêtement, j'aime beaucoup ce joueur. J'ai du mal à prononcer son nom, Canouz ou Canouzé, là. Russell Canouz. Vraiment, j'aime beaucoup son style. Je trouve qu'il est vraiment propre et calme. Et je trouve que l'impact n'a rien à envier à Areola et Assad. Quand je vois Silva et Piatti, ils n'ont rien à envier à eux. Moi, je pense que la différence, c'est la structure autour du club et surtout, tu as Acosta Rooney qui sont en fuego. Mais vraiment, là, c'est le duo le plus chaud de la Ligue depuis quelques matchs, ça c'est clair. Puis, l'avant Rooney et l'après Rooney est assez évident. Honnêtement, tu le vois tout de suite sur le terrain, la différence qui est immanquable. L'impact aurait pu avoir ça avec Jimmy Briand, à un degré moins peut-être, mais en termes de production, Briand aurait fait le travail. Tu sais pourquoi? Parce qu'il court. Parce qu'il fait des courses. Il marque des buts avec Bordeaux, man.
Mais il n'y a pas juste ça. Parce que Rooney, on le voit, on l'a senti un peu à l'époque de Drogba. T'sais, quand tu as un club, tu sais que dans ton équipe, tu as Wayne Rooney, puis qui peut tout faire, là, puis qui peut transformer ton équipe. T'sais, tout le monde devient meilleur parce qu'il y a Rooney dans ça. C'est mental. On le voit mentalement. Les joueurs sont en hyper confiance. Et Areola, il y a une face à fesser dedans juste parce qu'il joue avec Rooney. Nous, on se retourne. Il y a Piatti donne pas ce push-là émotif à l'équipe. Là, on était dans le trouble à 2-0, puis tout le monde avait la tête basse, puis personne n'était capable de prendre ça en main. Il n'y a pas cet effet. L'effet Drogba qu'on avait, là, eux, ils ont l'effet Rooney. Ils croient jusqu'à la dernière minute que c'est faisable, qu'ils sont invincibles parce qu'ils ont la star, ils ont le joueur qui va transformer le jeu à lui tout seul.
Tout à fait. Puis la fameuse action où il court après un corner dégagé pour aller tacler le joueur d'Orlando, pour faire un centre magnifique à Acosta qui marque la tête. Ça a marqué l'histoire de la MLS pendant longtemps là, en termes d'action de but. Et je suis d'accord. Ça fait plaisir de voir Rooney réussir et Zlatan. Rooney, vraiment, il est incroyable. Vraiment, on comprend pourquoi il a été top de 2004 à 2016, disons, il y a eu genre 10 bonnes années sur ces 14 années à Manchester United. Il y a eu 10 bonnes années faciles de haut niveau, classe internationale, niveau ballon d'or. Pour moi, c'est Rooney était juste incroyable. Et puis voilà, si l'Impact avait la moitié d'un attaquant, je pense qu'il saurait. Et puis en plus, et encore une fois, j'aime beaucoup Kunsamari, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il fait en termes de mouvement, en termes de athlétisme, en termes de force. Tu vois, il est fort, il est costaud, il part pas pied, il part pas le ballon. Voilà, dans un monde parfait, c'est un deuxième attaquant.
Tu me fais rire, là. Dans 4-4... Et à bientôt, tu vas dire qu'il y a des beaux cheveux, là.
Oui, il y a des beaux cheveux aussi, là. J'aime bien. J'aime sa couette, mais c'est pour dire... Voilà, dans un monde parfait, dans 4-4-2, un Américois qui est pas blessé, c'est bien. Non, moi je dis que c'est bien, Nilton. Encore
sur
une fois.
Sur le banc, il serait super. Est-ce qu'on passe aux questions après?
Je pense qu'on a répondu à tout déjà, non?
Bon, ben, on va passer à travers quelques questions, peut-être des sujets un peu différents. GF Sénéchal nous redemande encore la même question que la semaine passée. Hein? Raytala ou Camacho?
C'est Camacho, c'est Raytala maintenant.
Oh, je pense que oui. Hein?
Honnêtement, après...
Il va oser?
Mais le problème, c'est que, est-ce que dans son évaluation, est-ce que c'est son milieu de terrain qui a lâché? Et le fait que personne ne marquait qui a fait que Camacho soit dans la rue comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment Camacho qui s'est mis tout seul dans le trouble?
C'est la question
qu'on doit se poser.
C'est pas le seul, mais c'est le seul qui peut être remplacé avec un effet. Je veux dire, où Piet est passé un peu à côté de ce match-là. On fait quoi? Et on remet Piet, il n'y a rien d'autre. Azira, ça a été compliqué, il n'a pas trop aidé Piet. On fait quoi? Ben non, on ne met pas Kroliki, on se trouve pas mieux. Mais Camacho, il a perdu ses duels. Les 1 contre 1 avec Acosta, avec Rain Rooney, avec Ariola, ils ont perdu. Ouais. Lui, on peut le remplacer.
Moi, Camacho
a besoin d'être remplacé. Il a besoin de se faire dire, « Hey, dude, t'es pas si bon que ça. »
Bah, s'il garde l'affaire d'autres joueurs, notamment Sylvain, je pense que Camacho mériterait un petit wake-up call. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs à l'impact. J'ai pas vu beaucoup de défenseurs centraux qui sont considérés comme titulaires, qui sont venus en transfert. L'impact a payé un transfert au club belge de Rudy Camacho. Pour avoir un joueur qui se blesse très tôt, souvent, par rapport à son âge, qui semble perdre beaucoup de ses duels.
Ouais, qui ne domine pas défensivement.
Supposément, c'est un bon relanceur, mais pour le moment, ses relances, c'est 50-50. Et on n'est pas les seuls à en parler. Qui n'a pas une vitesse intéressante. Puis son club en Belgique, c'était au Vastland Beveren. Donc, je me dis... J'accumule tous ces facteurs et je dis c'est quoi son métier à Camacho dans ce cas-là? Si je prends tous ces points et je dis il défend mal, un contre un il a du mal, il manque de vitesse, sa relance est suspecte, et en plus, en ce moment on ne veut pas le considérer comme le numéro 1 si Fanny s'en va ou si Fanny se blesse ou en 2020 s'il est encore là et que Fanny quitte, on ne peut pas dire Camacho c'est le number 1. Qu'est-ce qu'il fait là? Je me pose la question sérieusement. Je voulais garder ça.
Les gens vont dire qu'on parle trop vite. La fameuse période d'adaptation.
Je l'ai dit pour lui. Je me suis dit, je vais lui donner l'année. Je vais attendre l'année prochaine. Mais je mets sur la table pour me dire, il y a tous ces facteurs-là. Je me dis, c'est peut-être l'équipe qui n'est pas bonne. L'équipe ne s'est pas adaptée.
Arrête. Là, je te mets en situation, peut-être que tu n'aimeras pas ça, mais tu vas être l'avocat du diable, OK? En quoi une année de plus va faire en sorte que quand il y a 1 contre 1 contre Wayne Rooney ou contre Acosta ou contre Higuain, contre qui tu veux, quoi ça va faire qu'il va savoir comment contrer ces gars-là?
Non, oublie de
contrer ces gars. On le voit tout de suite. Okay, je veux dire, dans ce match-là, il y a une confrontation. Il y a une confrontation Fanny-Camacho. On voit les mêmes. Il y a les mêmes situations. Ces deux joueurs-là vivent les mêmes situations avec les mêmes gars dans les mêmes conditions de match. Fanny, il n'a pas tout gagné, ces duels-là, on s'entend. Mais il en a gagné des duels. T'sais, il a mal fait paru quelquefois les joueurs des DC. Camacho, jamais. Jamais. Quand il gagne... quand il gagne, c'est parce qu'il fallait qu'il gagne. C'était un ballon facile à gagner. Quand c'est du 50-50, je te le dis, il les perd. Il est tout le temps... Il est tout le temps un peu trop loin, trop lent à réagir. C'est jamais clair et net. Je veux dire, on a 700 000 $ sur ce gars-là. On chiale après Mancuso pour le même cash. Pourquoi on ne peut pas dire Camacho, c'est peut-être pas une bonne utilisation. Ça fait un an qu'il est là, puis c'est pas terrible. Avant toi, quand tu étais à l'infirmerie, puis on comprenait pas trop pourquoi, parce que tu tu étais censé être en forme. On a mis un défenseur latéral. On avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de crainte de le mettre là, right là. Il était clean. C'était pas spectaculaire, on s'entend. C'est pas une étoile. Mais on n'était jamais en mode, il a passé à travers le match. Il passait un peu inaperçu parce qu'il faisait le travail. Il n'était pas exposé dans les buts. Quand tu mets une si grosse partie de ton budget sur un défenseur, comme tu as dit, avec un transfert, il faut de temps en temps un match wow. Il n'y a pas eu de match wow. Oui, il réussit une passe, puis là, tout d'un coup, ça justifie un 700 000. Non, il est censé être un vétéran de cette équipe-là et apporter une différence. Si tu n'apportes pas de différence, c'est pas après 3 ans qu'on va pouvoir t'en débarrasser. Il va être trop tard.
Non, c'est vrai, mais en fait, Nathan, ton exposé était excellent. Et je finis avec ça pour dire, on a le droit de douter. Tout ce qu'on dit, on a le droit de douter de lui. On va pas le mépriser. On va pas dire qu'il est nul. Parce que Mancuso a eu plus de temps que lui pour essayer de s'établir. Donc je me dis, le doute envers ce que l'on voit de Camacho est justifiable. Est-ce qu'on est d'accord? Depuis le début. Mais on est d'accord que maintenant on se dit, ok, c'est sympa qu'on gagne. C'est sympa qu'on n'a pas qu'à le ballon. C'est sympa qu'on finisse le boss. Mais bon. Quand Fanny n'est pas le boss, ou quand Fanny, le boss a besoin de son collègue pour step up.
Mais sérieusement.
Est-ce que Camacho est la bonne personne? Le bon joueur?
Est-ce qu'il y a eu des grosses différences entre Cabrera et lui?
Je ne sais plus.
Si il n'est pas capable de dire un oui aussi rapide, ouais. Il sait qu'il y a un problème.
Ouais, non, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Il y a débat.
Il faut que ma question soit stupide pour dire, OK, on le garde. Mais quand on se dit Cabrera ou Camacho, je fais, tu te mets à réfléchir, il y a un méga problème s'il gagne 3 fois plus.
Non, c'est vrai. Puis tu sais comment j'aime bien Cabrera en plus. Ça, je suis un peu subjectif parce que j'aime bien le profil de Cabrera, même s'il
est loin profond. D'être parfait, là, il fait plein d'erreurs. Mais au moins Cabrera, des fois, il gagnait des duels. Puis on se dit, oh wow, ce gars-là pourrait être bon. Camacho, j'ai fait plutôt l'inverse. Oh wow, il pourrait être vraiment un flop.
C'est un bon point. C'est un bon point. Je vais quand même lui donner l'année prochaine pour voir comment il va se comporter. Là, et puis comment il va, pas se comporter, mais comment il va être sur le terrain.
Il va être joué jusqu'en fin 2019. Là, donc, il faut attendre.
Il y a ça aussi.
Steph nous demande, il dit qu'on parle trop de Camacho, il aimerait parler de la... il a prévu le coup. Faut penser à la relève de Piatti, son contrat finit en juin 2019. Non, il finit pas en juin 2019, il finit vraiment à la fin de la saison 2019, puis il y a une option du club en 2020. Il faudrait penser à la relève. Oh my god, penser à la relève. Steph, l'impact de Montréal avec un plan à long terme.
Relax là. Ils vont pas investir plus d'argent s'ils n'ont pas plus de billets de saison. Mais ils ont besoin d'investir pour avoir plus de billets de saison. Quel dilemme.
Ils n'ont pas de recruteur. Toutes les équipes sont en train de se munir d'un
recruteur chef.
Ils n'ont pas de recruteur. Ils ont juste une liste WhatsApp d'agents. Puis de temps en temps,
ce qui est correct. Ça fait partie de ça, mais tu ne peux pas juste avoir ça.
Mais si oui, tu vas avoir ce qui est disponible, tu ne vas pas avoir ce que tu veux, tu vas avoir ce qui est disponible.
Ça, c'est vrai.
Des fois, ça va bien.
J'ai une question bête, Nilton.
Okay.
Je pense que j'ai déjà posé peut-être à 5-6 épisodes.
Je vais essayer de répondre à la même chose.
Essaye. Bonne chance. Est-ce que. Dans un monde alternatif, est-ce que l'impact aurait pu se permettre Wayne Rooney de 1 et de 2, est-ce que Wayne Rooney aurait voulu venir à Montréal? De façon, je dis comme ça, parce que je vois pas la relation entre Rooney et DC. Il n'y a pas de relation là, que je vois. Peut-être son agent qui connaît peut-être le propriétaire DC, je ne sais pas. Mais dans ta tête, est-ce que Rooney, en termes d'investissement, ça aurait été bien et faisable pour Joseph Puto? Et est-ce que Rooney aurait dit oui à l'impact si les conditions financières étaient là?
Rooney à DC, c'était logique au niveau MLS. Cette concession avait besoin d'une relance.
Donc, on parle du complot d'Ant Garber qui veut contrôler la Ligue.
Non, je veux dire, si jamais il y a une star française, mettons Benzema devient disponible, il veut venir. Mettons Griezmann n'est pas un douchebag, puis.
Oh le salaud.
Puis que le basketball, c'est pas son âme. C'est pas un argument clé pour signer dans la MLS. Mais tu sais, Griezmann veut venir en MLS et la MLS dit, c'est logique, on va le mettre à Montréal parce que de façon globale, c'est bien d'avoir une star francophone à Montréal. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on est favorisé par la MLS. La MLS, c'est une entreprise globale. Ils placent les joueurs là, un propriétaire intéressé, où là, ça fait plus de sens. Drogba. Rooney, en DC, ça faisait beaucoup de sens. C'était un gros investissement. Je pense pas que Montréal était capable de se payer ce genre d'investissement-là.
Non, c'est vrai. Je viens de réaliser, le propriétaire de DC United est aussi propriétaire de Swansea City. Ceci explique cela. C'était aussi l'ancien PDG des Grizzlies de Memphis. Donc, ceci explique cela. C'est un New Yorkais. Intéressant. Il doit avoir un lien avec la EPL.
Là, il semble avoir quelque chose qui se trame dans les coulisses de la MLS parce que Paul Tenorio a parlé. Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre?
Oui, c'est Tenorio, oui.
Qui parlait que certains propriétaires voulaient abolir le troisième DP. Peut-être que.
Parce qu'ils veulent stopper Atlanta d'acheter des joueurs. Ouais. Je pense. On n'a pas d'argent à dépenser. Arrêtez de mettre la pression.
Au lieu d'être nous meilleurs,
on va vous rabaisser. C'est ça qu'on va faire. Moins d'argent, puis tout le monde aura accès aux mêmes joueurs. Boum.
Donc, tout ça pour dire, c'est l'investissement.
Ouais.
C'est tout le temps tough à justifier un investissement parce que, tu sais, les gens. On a tous des notions financières, des fois un peu so-so, là, pour dire on va signer tel gars, puis on va faire de l'argent avec les maillots, puis le stade plein. Ça marche pas souvent, cette stratégie-là. Là. C'est pas avec un gars qu'on va espérer transformer l'économie d'un club. Là. C'est plus ça.
Drogba a fait ça.
Pas tant que ça.
Mais Drogba a quand même monté les attentes du club en termes de billets de saison. Ils ont profité du vibe, du tsunami de Drogba. Donc, il ne faut pas faire semblant que l'impact n'était pas là. Je pense que c'était clair pour moi.
De façon économique, là, est-ce que ça a vraiment transformé ce club-là?
Il n'est pas resté là assez longtemps.
C'est longtemps pour ça.
Mais je pense qu'on a vu un aperçu de ce que ça aurait pu et ça aurait dû donner.
Bon, on est un peu hors sujet, là.
Non, mais on parle foot, là.
On parle plus de la défaite de 5-0, mais moi, déjà eu cet épaule-là. Ouais. Tu sais, à l'époque, là, avec Reg et tout ça, on se disait, quel joueur va faire en sorte qu'on va vendre, qu'on va avoir des sold-out semaine après semaine, et on n'en trouvait pas. Montréal, là, on s'habitue rapidement à une star. Quel joueur international va vraiment remplir le stade 15 fois dans la saison? Il n'y en a pas d'accessible. Tu sais, oui, on peut penser à des Ronaldo et des Messi.
Zlatan,
en dessous de ça,
Zlatan aurait rempli le stade, c'est sûr.
Ouais, et à l'époque, on avait dit Zlatan, c'était le troisième. Et après, il n'y en a pas. Il n'y a personne de disponible qui peut. Tu peux pas me dire un nom vite comme ça. Lui, on l'amène, puis il s'est rempli.
Est-ce que Griezmann remplit le stade? Je ne sais pas.
Ben non.
J'ai l'impression que non.
Ben non.
Simon, est-ce que... Il faut que ce soit un nom qui passe à travers les cultures et les langues.
Et là, le prochain qui serait disponible comme vétéran, ce serait Suarez. Une méga star, on s'entend. Est-ce qu'il remplit le stade? Non, c'est non la réponse.
Je pense pas, non.
Donc, ça devrait être jamais ça le plan d'une équipe, d'aller chercher un DP puis là, dire, ben là, les gens venaient. Non, c'est pas ça. Les gens viennent quand le jeu vaut la peine, quand le collectif est beau, quand tu vas là puis que c'est beau à avoir joué. On s'en fout un peu des noms. T'sais, oui, il faut un minimum, il faut un mix. Il faut, tu sais, Piatti était inconnu, mais les gens se sont attachés à Piatti. Il faut du local qui réussit. Il faut des gars qui s'intègrent, ainsi de suite. Il faut des gars. Ou un peu funny, tie-dye, tu sais,
c'est un équilibre.
Exact, tu sais, c'est pas des A-players, là, mais c'est pas grave. Une fois qu'ils sont rendus ici, ça devient nos têtes d'affiche. Donc.
Pour répondre à Steph, @Ancalgo74, on ne sait pas qui peut remplacer Piatti. Et pour Nilton, pour te dire, si tu veux faire signer Griezmann, il faut trouver la ville où il y a plus de concentration de joueurs Fortnite. Donc comme ça, tu sauras où Griezmann va signer.
Je peux pas croire que je l'ai appelé douchebag. Imagine, je vais recevoir un lot de... Oh, yo, yo.
Fortnite.
On prend-tu une question de Marc Belletête, notre... notre follower le plus sévère, on va dire ça comme ça?
Le plus tranchant, le plus sec, le plus direct.
Comme du coup, j'aime bien ces questions.
Ouais, ça nous fait réfléchir. Il est aussi direct que les coups francs de Vargas.
Directement sur le poteau?
C'est pas mal.
Il est fort, Vargas.
En coups francs? Très fort. On est d'accord qu'il y a un talent en coup franc, direct. Ensemble, blague à part. On est d'accord. Vargas, en termes de coups francs directs, il sait comment les prendre.
Ah, c'est comme dire, on devrait le mettre, lui, ces joueurs-là. Il jongle avec le ballon.
Non, tu vas déjà à la question numéro 5. Question numéro 1, Nilton, focus. Stay with me, bro. Est-ce que, de façon objective, Vargas est un bon tireur de coups francs?
Ben oui. Ben, okay. Bon, mais il y a plein d'autres niveaux. Là. Il y a très bon, il y a excellent.
Est-ce que tu as l'impression qu'il sait comment le faire? Juste pour être sûr. OK, c'est bon, on peut passer à autre chose.
Mais la FIFA n'a pas encore installé la fameuse règle où on a le droit d'avoir un Juninho sur le banc. Et à chaque coup franc, il vient le tirer.
Ouais, genre, ils vont ramener le rôle de libéro, mais c'est juste pour prendre des coups francs.
Juste pour les coups francs, il serait malade.
Ah, incroyable. Quel joueur? DP, 2 millions de dollars. Let's go.
Marc nous demande, est-ce que Rémi Garde fait passer ses principes, idéologie avant la victoire?
Si c'est le cas, pas l'idéal durant une course aux séries. Honnêtement, je trouve que
c'est quoi les principes de Rémi Garde?
Je pense pas qu'il a des principes, mais je pense pas que c'est des choses qui... C'est des principes sur le terrain. C'est les bosses d'énergie, le pressing, jouer vite vers l'avant. C'est ça, c'est peut-être des principes. C'est Elisa. Je pense pas que c'est des principes qui traversent l'ADN du club pour transformer l'ADN. C'est pour revenir à ce qu'on disait avant, transformer l'Impact à devenir le Red Bulls du Québec, à devenir le crew du Québec. Donc, je veux dire, il y a la différence entre principe idéologie sur le terrain et principe idéologie du club. C'est deux choses différentes.
Mais moi, je n'arrive pas à trouver ce que Rémi Garde ne fait pas par principe. Qu'est-ce que Rémi Garde s'est empêché de faire? Non, à cause de son rien.
Peut-être faire jouer Mancuso trop souvent, ou peut-être Jackson Hamel n'est pas dans ses papiers, ou que Camacho joue par défaut. Est-ce que ça, c'est un principe? Honnêtement, en termes de sur le terrain, je trouve que Garde peut pas faire plus que ça. Il fait son travail là. Il
nous a amené vraiment au maximum.
C'est ça, il a fait. Tu sais, il transforme Tider à donner plus de liberté. Azira, quand on lui propose, il dit oui, le profil me convient. Tu sais, lui, il a approuvé Tider, il a approuvé Azira, il a approuvé Silva. Même si Silva était déjà dans les papiers, il a dit « Oui, ça m'intéresse. Je pourrais travailler avec ça. »
Oui, c'est les principes défensifs qui appliquent un peu plus.
Tout à fait.
Mais s'il était vraiment si borné dans ces principes-là, il mettrait Raitala à la place de Lovitz.
Oui, il y a ça aussi.
Et il fait jouer Lovitz parce qu'il sait qu'il va amener un peu plus.
En attaque, puis il le fait.
Parce qu'on a besoin. Mais sinon, ailleurs, c'est quoi les autres choix qu'il y a? Il n'y a rien.
Ouais, ben, maintenant, c'est une question. Qu'est-ce que Marc veut dire par principe et idéologie? Ça, si c'est au niveau du club... Ça va venir plus tard. Si c'est au niveau du terrain, je trouve que peut-être ces principes qu'il n'a pas fait trois remplacements, alors qu'il n'y a même pas assez de bons joueurs pour en faire un. Donc, honnêtement, je ne vois pas. Mais est-ce que c'est l'idéal durant une course de série? Honnêtement, comme on dit, en général, l'être humain, là, c'est un peu trop philosophique, mais va préférer mourir avec ses idées que celles de quelqu'un d'autre. Donc, il fait ce qu'il veut. Hein. Il les a ramenés jusqu'à là, c'est à lui de continuer et finir le travail. Ça ne veut pas dire que c'est avec ses principes avant la victoire, ne vont pas mener l'Impact au Serie MLS. On le voit qu'ils sont proches, qu'ils sont beaucoup mieux qu'avant. Donc, ses principes, quels qu'ils soient, marchent. Marchent mieux, en tout cas.
Bon, on prend une dernière question. J'en vois quelques-unes qu'on a déjà répondu. Là. Donc, on parle beaucoup de l'adaptation de Camacho, on parle du Ludovic, on a parlé beaucoup.
Est-ce qu'il a bien une tête de français, Rudy?
Comment t'as dit ça?
Est-ce qu'il a pris un test de français, Rudy? S'il échoue son test de français, on fait quoi? Est-ce qu'on le déporte? Est-ce qu'il revient? On le voit à Toronto? Je veux savoir.
Pourquoi tu vas là? Les gens, là, ils vont probablement écouter ce podcast-là. Tout va être réglé déjà au niveau politique. Puis là, tu nous ramènes.
C'est vrai. Hashtag Élection Québec, si vous n'avez pas compris.
À moins qu'on s'en fasse un, c'est un couscous péripéré en mode élection mercredi, mardi, jeudi.
On va dire quoi?
Prendre une dernière question. Tiens, celle de Mike Miller. Ça va pas bien, hein, Mike?
Miller time! Le Barça, quel club! Le Barça, une institution intouchable, incroyable, parfaite, sans erreur.
Ils pensent faire un podcast tranquillo, une saison complète, juste parler des victoires 3-0 contre Girona et Barça.
Tout va bien.
Le pauvre Valet qui est en train de vivre pour la première fois des défaites de Barcelone.
C'est difficile, hein, le concept de perdre, hein, bêtement.
Ouais.
Hein?
Ouais, hein? C'est facile de choisir une équipe quand elle gagne toujours, mais là, quand elle perd.
Facile quand l'arbitrage est arbitré par le VAR et qui fait son travail. Hein? On peut demander à Drogba, qu'est-ce qu'il pense du VAR s'il l'avait en Champions League contre le Barça?
Oh God, boys love
the... Le même Barça s'il est éliminé contre le Chelsea de pas Ruud Gullit là, mais l'autre. tout cas, le coach hollandais, là, le blanc, je sais pas, Ruud Gullit, là, mais j'oublie celui qui coachait Drogba pendant une année. Si le Chelsea émine ce Barça, le premier Barça de Guardiola, jamais peut-être le Barça n'aurait jamais existé sous la forme guardiolesque. Hein? Moi, je dis oui pour le VAR. Yes!
Messi sur le banc. Bref, Mike Miller nous demande, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que DC était à ce point plus fort que l'Impact de Montréal? Comment démontrer une telle contre-performance dans l'enjeu, quand l'enjeu était si important? Hey Mike, you know what?
Listen to us, épisode 355, écoute tous les épisodes, ok? C'est quoi ces questions de merde, là? Non, je blague.
Mike, DC est meilleur que Montréal.
Ouais.
Ils étaient à la maison, ils sont sur une belle séquence. Il fallait qu'ils gagnent le match.
Ils ont eu beaucoup de réussite. Voilà.
Exact. Montréal, ils n'étaient pas capables d'aligner un tir sur le filet. On a perdu.
C'est aussi simple que ça. C'est simple. Et en plus, mais honnêtement, les gens qui n'ont pas vu le match, ne vous basez pas sur le score. Regardez le match. Et vous allez comprendre comment le match s'est déroulé.
Moi, je ne l'ai pas vu live, le match. Donc, tu sais, tu vois les bus alignés sur ton sel puis tu dis « Oh my God, quand je vais voir ce match-là, ça va être une catastrophe. » Puis tu as eu un petit rant avec Arcadio.
Un petit vibe, hein, ouais.
Ouais, puis effectivement, tu sais, quand tu sais que tu vas finir par perdre 5-0 et tu regardes la première demi,
ouais,
tu dis « Tout va bien. »
Ben oui.
À un moment donné, ce ballon-là va rentrer. Puis tout va être correct. Ce match-là va finir 1-1, pas de problème.
Ouais, quand ça se retrouve, on n'a pas pénalité à faire un tir, c'est que c'est une bonne chose. L'impact attaque.
Oui.
Mais non, c'est ça. Puis encore une fois, c'est une question d'attente et comment tu vois les choses. Hein. Propre à mi-temps, tout le monde est bien, deuxième mi-temps. Tropotin, Tider, Piatti, Rémi Garde, le cousin de Garde à Strasbourg, le chien de Garde, le jardinier, tout le monde. Tout le monde
dans Tropotin. Mais les playoffs, c'est encore faisable.
Ben oui.
T'sais, toi qui es négatif, là, t'sais, ce scénario-là, il est dur. Okay? T'sais, j'entendais justement les gens, je ne sais plus qui disaient, là, mais il faut un miracle, Montréal est éliminé. Ce n'est pas vrai.
Non, c'est faux. Le miracle, ils l'ont fait.
T'sais,
le miracle a été fait. Ils sont proches de faire la série. Moi, j'y croyais pas du tout d'être aussi proche que ça. J'ai l'air bête.
Mais là, tu sais, Montréal, il faut qu'ils gagnent les trois prochains matchs. Difficile, mais c'est faisable.
Tout à fait. New England, Toronto et Columbus. Columbus, Toronto.
C'est là que ça se passe encore. Le fameux match de la saison, c'est la semaine prochaine, mais c'est faisable.
Ouais, mais le fameux. On va encore dire ça, le match à gagner encore.
C'est sûr.
On va encore me fâcher avec ça.
Prépare-toi.
C'est le match à 9 points. 12.
C'est le match de la saison. Tu sais, avant, c'était le match de la saison. Maintenant, ça va être le match de la saison.
OK, mais j'ai une question, Hilton.
Non, mais attends, laisse-moi venir. Après, tu iras. Là. Ce match, OK, on gagne les trois prochains matchs. C'est tough, mais c'est réalisable. OK?
Tout à fait.
DC, est-ce que DC peut se faire accrocher 2-0 sur 5?
Oui.
C'est pas...
Ben, New England,
je parle même pas de défaite.
New England s'est fait taper par Toronto, donc ça aide Montréal.
Non, là, DC s'en va à Chicago. OK, gagne, mettons. S'en va à Dallas.
Ils jouent chez eux.
Hein? Excuse, reçoit, non. Ils reçoivent Chicago.
Ils reçoivent quatre prochains matchs sont à la maison.
Ils reçoivent Chicago, Dallas, Toronto, New York City
FC.
Ça se peut là-dedans qu'il y ait 2-0?
Ou même une défaite, une nulle. Allez, jouez un tour au loto.
Ils sont à Chicago, dernier match. Ça se peut aussi, là.
Ben oui.
2-0 sur 5 matchs, c'est pas un miracle.
C'est juste normal.
On finit à 49, tous les deux. On a plus de victoires. On passe. Bon, c'est sûr qu'on va perdre le premier match dans les playoffs. C'est pas grave, mais au moins, les dirigeants vont pouvoir nous dire pendant tout le mois de janvier, décembre, février, mars, on a fait les playoffs, case cochée. Donc,
ne pas analyser le match avant qu'il soit joué, Newton. Le fameux match de barrage. Parce que moi, ce club en série, s'ils ne se rendent pas dedans, dans le vestiaire, pour une histoire bête ou je ne sais pas quoi, je pense qu'ils vont...
On s'est rendu à un match, la fameuse saison, un match de la finale avec des résultats.
Un match, un but. Un but de la finale à la MLS.
Moi, on ne l'a pas fait, ce but-là, par exemple.
Et Mancoso était meilleur déjà. C'est incroyable. Hein?
Bon, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire avant de finir? Peut-être que j'ai oublié.
Est-ce que j'ai oublié? Attends, on parlait de quoi? On parlait pas de match à 9 points, match à 12 points.
Le match.
Ah oui. Si Montréal perd contre Columbus, est-ce que c'est un match qui peut se permettre de perdre ou pas? Je veux savoir, est-ce que ça continue ça? Qu'on s'arrête?
T'as garanti que mes présences au 91-9 vont être. limité après cette défaite-là.
Donc, quand il restait 4 matchs, le match pouvait se perdre, mais quand il reste 3, le match ne peut plus se perdre. Contre des adversaires de la même conférence. C'est bien ça, Nilton?
C'est pas ton Nilton, Safia.
Nilton, je suis là pour apprendre. Comme Bruni Surin, équipe Haïti dans les Boys 2, je suis là pour apprendre.
Ce qui va être encore plus tough, c'est si on perd à Columbus, il va falloir faire ce podcast-là et après en faire 2 autres.
Après, c'est parfait, c'est ça?
Après, c'est... Non, mais faire 2 podcasts avec des matchs qui ne veulent plus rien dire, ça ne sera pas facile.
Non, ça ne sera pas facile, mais non, je ne comprends pas. Mais en allemand, bon, pour conclure, là, moi, ce qui est important, c'est la perspective, mesdames et messieurs. Tous les auditeurs, auditrices, les lecteurs, les fans, etc.
Professeur Benzaza, explique-nous.
C'est une question de perspective. Je vous donne un exemple, ok? Par exemple, est-ce qu'on est d'accord que notre perspective sur Silva a changé 4 000 fois? Quand je dis nous, je parle de tout le monde.
Oh ouais.
On s'est dit, un ailier, ça va être bien. Hey, mais il fait quoi, lui?
Il court pas. Il joue en défense.
Il joue en défense.
Attends, ils avaient dit que c'était un ailier, il joue en défense.
Après, il joue au milieu de terrain, c'est pas mal. Mais après, quand ça perd, il joue au milieu de terrain, ça va mal. Et après, il joue ailier, ça se passe bien. Et quand ça se passe mal. En tout cas, on a eu du show, on a vu du tout avec, pour Silva, par exemple, ok? Mais disons que les attentes par rapport à lui étaient claires, on voulait qu'il soit ailier. Si je prends l'exemple de mon ami préféré, mon joueur préféré, disons, c'est Saphir Taïdor. Donc, juste pour donner un exemple, ok, pour dire. Parce qu'on a rentré sur tout le monde. D'accord, moi je suis d'accord que Taïdor était nul en deuxième mi-temps. C'était catastrophique.
Et sur le but, surtout fâché.
Oui, et sur le but d'Acosta, il aurait dû ne pas perdre le ballon. Du moins, bon, il a dégagé le ballon en arrière sans faire exprès. En tout cas, c'était une faute.
Il était malchanceux.
Il était malchanceux.
Piet a été un peu touriste. Là. C'est, tout le monde était...
Oui, surtout que Piet s'attendait que Taïdor gagne le ballon. Ou ne pas le perdre comme ça. Mais respect au 1-2 de DC United qui a été assez réactif et de haut niveau. Moi, par rapport aux attentes, ok. Donc là, quand je note ce qui passait à la saison pour Taïdor, donc là, j'écris sur un bout de papier. Attention. Donc Taïdor, c'est un numéro 8. Dans la même saison, on s'attend qu'il soit numéro 8. Numéro 6, un 6,5. Un ailier gauche. Un buteur.
Ailier gauche.
Un ailier gauche. Attends.
Oui, il a joué à 15 ans à Tours.
Pas à Tours et
tout. Grenoble,
peut-être. Donc,
ça a été c'est la meilleure phrase de 2018. Oui, Taïdor a déjà joué comme ailier gauche. Waouh! Ouais. À un moment donné, il y a des limites à être corpo, là. Come on.
Oh ouais, non, il a joué là au Soccer Five de Castres en 2003. Taïdor, il est 8. On s'attend qu'il soit 8, 6, 6,5, ailier gauche, 10, buteur, défenseur et repère, distributeur de ballon. Tout ça dans la même saison, et après, on lui rend dedans qu'il n'est pas capable de remplir un de ses rôles et qu'on s'attend qu'il remplisse tous ses rôles en même temps. C'est incroyable quand même. Hein.
Sais-tu que Taïdor a plus de buts que Piatti dans les matchs à l'extérieur?
Nilton, il ne faut pas dire ça, Nilton, il ne faut pas dire. Okay, ils vont croire que c'est un complot. C'est un secret.
Excuse-moi.
C'est un secret. Est-ce que tu dis que Taïdor a du caractère? Non, arrête.
Ouais. Arrête. Mais il va falloir.
Mais ce que je trouve
ça, c'est un problème parce que à l'équipe, il n'y a personne qui calme les gars. Là. Ça, c'est
le prochain
mercato. Reste d'être la fin.
Regarde, j'avoue qu'il manque la présence d'Abernier qui va calmer les choses. Pour dire, les gars, STFU, s'il vous plaît, puis let's play. C'est correct, c'est des joueurs qui l'ont son show, c'est correct. Mais bon, je pense que c'est Fanny qui est là, qui est genre le Gandalf là, qui va calmer tout le monde quand il le faut. Mais en même temps, lui, c'est un défenseur central, il oublie. Il doit gérer les attaquants et Camacho en même temps. Il n'a pas que ça à faire. Mais pour dire, tu sais, pour illustrer un peu mon truc sur Taïdor, et encore une fois, il adore Taïdor, il est algérien, etc. Ouais, mais bon. Tu vois son CV, tu vois son terrain, il est bon. Mais, ouais, very racist, bro. Mais pour dire, tu sais, il fait l'erreur sur le but de DC. Acosta lui chip le ballon, puis 1-0 DC United, ok? Quelques minutes après, est-ce que vous vous rappelez de l'action qui fait que Sagna tire 2 fois au but sur Hamid? Enfin, il marque. Est-ce que vous vous rappelez de l'action?
C'est incroyable, quelle chance manquée.
C'est vrai, mais si on s'en rappelle un peu, qui a fait le centre? Danny Ilovitz. On est d'accord, Danny Ilovitz a fait le centre. Le centre est venu d'où et de qui? Safi Taïdor était quasiment dans la surface, côté gauche. Il a attiré avec lui 3 joueurs de DC United pour ensuite donner le ballon parfaitement à Ilovitz qui centre en première intention. Donc juste après le but que Tider a causé.
Et après, tu veux pas que je parle des attaquants qui manquent à Montréal?
Oui, oui, mais
c'est pas Bakary qui doit faire ça, là.
Oui, mais au moins, il était là. C'est pas important qu'il est là, mais quelqu'un soit là et qu'il puisse marquer des buts. Pour dire, par rapport aux attentes, gérer vos attentes, voyez ce que Tider a fait sur cette action défensive où il a fait une erreur, et offensive où il s'est rattrapé. Regardez l'action. Il attire 3 joueurs de DC United pour donner un Lovis qui était dans un boulevard grâce à Tider. Et pour dire toute la liste des attributs qu'on s'attend de Tider, c'est pour conclure, gérer vos attentes. D'accord ? Et appliquer cette formule à tous les joueurs que vous voyez sur le terrain et dans le foot ailleurs. Gérez vos attentes, s'il vous plaît, et la perspective le plus possible, comme vous pouvez. Chacun, on est des êtres humains, on a tous nos façons de réfléchir, nos façons de sentir les choses. C'est correct, on est unique de cette façon-là. Mais s'il vous plaît, prenez la perspective et, comme dirait Carey Price, chill out.
Chill out. Encore, 3e allusion, c'est un record.
On va commencer un podcast sur le hockey.
Un autre.
On appelle ça au CANFC un reset.
Le reset, ça serait bon, ça?
Ah, un bon nom
de
podcast.
Le podcast, ça serait prêt.
Le reset. Le reset. Comment le Real Madrid est devenu le seul club en Espagne. Ça, c'est du chaud. Sweet.
Bon, moi, il faut s'en garder pour la semaine prochaine.
Exactement. Merci tout le monde de nous avoir écoutés sur les plateformes. La plateforme de podcast du CANFC et le CAN Football Club Plus. Vous cherchez avec ces mots-clés pour nous trouver sur votre plateforme de podcast préférée. Nilton, hâte de t'écouter cette semaine au 99 et surtout, de lire.
Pour parler du match. Tu parlais de quoi? Qu'est-ce qu'on va parler cette semaine?
Le
match de la saison.
Pas le.
Le match de la saison. Avec une petite pause.
Et qui est aussi le match qu'on. L'impact ne peut pas se permettre de perdre cette fois-là. Parce que voilà. Merci tout le monde, puis Nilton, encore une fois un grand plaisir, hâte de lire tes tweets, parce que sans ça, la vie ne vaut pas la peine de vivre. Au revoir tout le monde.
J'espère que non. Là. Ciao, ciao!
Ciao tout le monde.
MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Ben des fois on parle de cuisine, mais pas longtemps. CAN Football Club, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN Football Club. La poutine du soccer.